Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'accord global Élysée-Bougival signé en tout début de semaine va permettre à la Calédonie de marcher sur ses deux jambes, institutionnelles et économiques. C'est ce qu'a rappelé notamment la ministre des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Et dans cette émission, nous allons nous intéresser évidemment au volet économique. Nous allons le scruter avec nos quatre invités. Que contient ce volet? Va-t-il permettre à la Calédonie de se relever économiquement? Nous allons en parler avec Christophe Coulson, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC, Jean-Marc Burette, secrétaire général de l'USOINC, Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF, et Christophe Dautieux, le président de la CPME. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, la première question que j'allais vous poser, c'est évidemment, enfin, est-ce que vous êtes satisfait de voir ces aides dont on parle depuis maintenant plusieurs mois, sur lesquelles les uns et les autres ont beaucoup travaillé? Il y a eu beaucoup d'échanges, notamment avec la mission interministérielle de Claire Durieux, à laquelle vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, participé. Là, il y a enfin un montant annoncé. Il y a quelque chose qui semble fixé dans le marbre. Est-ce que vous êtes satisfait de voir les choses prendre cette tournure les uns et les autres? On va commencer par Christophe Coulson.
Bien, bonjour aux auditeurs. Effectivement, on peut être que positif face à ces annonces. Maintenant, il va falloir travailler sur la mise en œuvre de ce qui a été annoncé. J'espère qu'elle se fera assez rapidement, puisqu'on a des échéances très courtes, notamment sur les aides qui doivent être allouées au RUAM, mais aussi au régime de retraite du secteur privé. Donc oui, on est positif, on va continuer de travailler de la même façon qu'on l'a fait depuis un certain temps déjà, et on est un petit peu rassuré effectivement sur ce qui a été annoncé pour la suite.
Bertrand Courte.
Alors, juste avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut saluer le travail qui a été réalisé là à Paris, à la fois par l'État et les politiques calédoniens, qui ont su trouver la voie pour que sortir de ces travaux et de cette rencontre avec un accord politique et un accord économique. En ce qui concerne le MEDEF, cet accord économique est très clairement une bonne nouvelle. Ça permet à très court terme d'éviter l'asphyxie de l'économie calédonienne. À moyen terme, ça doit permettre de relancer l'économie par des investissements et à plus long terme, permettre de construire, à condition qu'on prenne les bonnes réformes en Nouvelle-Calédonie, construire un modèle sociable et économique qui soit durable.
Première réaction aussi de votre côté, Jean-Marc Burette, à cet aspect économique et social de cet accord d'Élysée-Oudinot.
Donc c'est une annonce qui était attendue. Enfin, on a un petit peu de visibilité et de la transparence sur le positionnement de l'État. Donc c'est important. Féliciter le travail qui a été mené à Paris par les acteurs. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les problématiques, les urgences sont derrière nous, et qu'on règle toutes les problématiques calédoniennes avec ce pacte. Il répond à un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de piliers qui étaient inscrits dans le pacte économique, et il est important qu'on puisse continuer les travaux et les fléchages de façon à ce que cet argent soit bien utilisé et qu'il soit dans l'intérêt des Calédoniens.
Mais cet argent est déjà un peu préfléché, hein, quand même, d'une certaine façon.
On en rediscutera.
Il faudra voir comment ça se met en œuvre.
Voilà, c'est ça.
Christophe Dautieux, vous étiez déjà avec nous la semaine dernière lorsqu'on faisait une émission sur le BTP avec de fortes inquiétudes, on le sait, hein, dans ce secteur. Aujourd'hui, évidemment, est-ce que les annonces et la signature de cet accord sont aussi, comme vos autres camarades sur ce plateau, de nature à vous rassurer?
Cet accord, on l'attendait depuis tellement longtemps qu'on peut être que satisfait. On en a fortement besoin. Encore plus aujourd'hui, cette partie économique qui est traduite par un projet de paquet économique qu'on a pu avoir dans les mains en ce début d'année, qui n'a pas forcément bougé depuis cette annonce de cette semaine, représente quand même 262 milliards mis sur la table au profit de l'économie. Donc attendons malgré tout le vote du budget national qui est en lien avec cet apport de financement. Donc voilà, on est heureux, on est content, on l'attendait, mais attendons encore les étapes qui doivent venir. Et comme pouvait le dire le syndicat du MEDEF, il faut saluer également, pour complémenter, le travail qui a été fait par la mission de Claire Durieux, qui a contribué fortement à ce projet de paquet économique.
Alors, puisque vous êtes quand même les uns et les autres, même si on a bien compris, il y a un certain nombre encore de points à voir, plutôt satisfait de ce qui s'est passé, il y a aussi une satisfaction du côté de la métropole, puisque le budget sur lequel pèse une lourde incertitude, le Premier ministre a choisi d'utiliser le 49.3, ce qui devrait normalement permettre une adoption assez rapide. De toute façon, il faut que toutes les planètes s'alignent, hein, Bertrand Courte, c'est obligatoire.
D'une façon ou d'une autre, il va falloir que les planètes s'alignent. Hein. Et effectivement, le fait que le Premier ministre recourt au 49.3 pour faire qu'il y ait un budget qui soit adopté rapidement, hein, c'est forcément pour la Nouvelle-Calédonie, c'est indispensable. Sans ça, hein, le plan de refondation proposé par le Premier ministre au mois de décembre, l'accord économique qui vient d'être signé à Paris, ne pourra pas se mettre en place. Et ça serait pour nous une véritable catastrophe.
Alors on va évoquer plusieurs des points, hein, qui sont contenus dans cet accord. On va commencer peut-être par ce qui va d'une certaine façon desserrer les pressions sur les finances publiques, puisque les années 2026 et 2027 vont être des années blanches en termes de remboursement de prêts que l'État avait accordé à la Nouvelle-Calédonie, enfin que l'AFD avait accordé à la Calédonie via la garantie de l'État. Derrière, il y a la possibilité, et c'est marqué, hein, l'État s'engage à la signature d'un contrat de désendettement et de développement en 2026 en ouvrant notamment la voie à une conversion des prêts en subventions. Alors il y a du travail encore à faire, mais il y a une première étape qui a été franchie qui est importante, Jean-Marc Burette, c'est-à-dire qu'en 2026 et 2027, la Calédonie n'aura pas à rembourser ses prêts qui pourraient ensuite être transformés en subventions.
Ben, ces années blanches, elles sont indispensables parce que refaire des prêts pour rembourser des prêts, c'est pas très vertueux en exercice de finances. Et c'était important que l'État puisse aussi se positionner sur ces sujets-là. L'argent qui sera du coup injecté en Nouvelle-Calédonie pourra servir pleinement à la relance économique et non pas partiellement à des remboursements de crédit. Maintenant, en ce qui concerne la subvention ou le prêt sur la reconstruction, il est important de savoir comment et sur quoi ça va être fléché. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un cadre assez général, mais il va falloir vraiment qu'on travaille dans le détail pour qu'il y ait des réponses rapides sur la relance économique.
Christophe Coulson, sur ce sujet.
Oui, je partage l'avis de Jean-Marc. Je crois que c'est important. Ça va soulager aussi le budget de la Nouvelle-Calédonie. Les disponibilités éventuelles, de par le fait qu'il y ait ces deux années blanches, vont pouvoir être redéployées sur une relance de l'économie. Je crois que c'est un bon signe également. Ça fait partie des bons signes pour relancer notre économie et quelque part assainir un peu la dette de la Nouvelle-Calédonie. De manière à avoir de la visibilité qui nous dirige vers une économie un peu plus florissante.
Bertrand Courte, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui est pour l'instant plutôt sécurisée, on va dire.
Elle est légèrement écartée un peu, voilà, sur le côté.
L'épée reste là quand même.
Elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais effectivement, comme le disait Christophe, hein, une étape importante, c'est le budget national, puis aussi le budget calédonien. Hein, et on le sait, ça a donné lieu en fin d'année à des tensions entre le membre du gouvernement calédonien et la mission interministérielle, hein, à quelques tensions sur ce sujet-là, sur le sujet du remboursement des prêts. Et le fait que ça soit différé, ça donne quand même une grosse bouffée d'oxygène, par contre. Mais attention, l'État, aujourd'hui, ne fait plus de chèque en blanc. Hein, ça, c'est très clair. Hein, dans l'ensemble des dispositions qui sont prises et du soutien, y compris à la filière nickel, ce n'est pas « j'aide maintenant, je continue à aider, je fais des chèques et je ne regarde pas ce qui est fait de la dépense et ce qui est mis en place pour éviter que je fasse un autre chèque dans quelques années. » Et ça, c'est hyper important. Faut l'avoir à l'esprit.
Vous parliez de la filière nickel. On signale que les 262 milliards hein, de francs que l'État va verser dans le cadre de cette aide, pour l'instant, ça, c'est hors nickel. Il y a des versements complémentaires qui sont faits aussi pour le nickel. Sur ces années blanches, sur ce décalage du remboursement des prêts et éventuellement leur transformation en subvention, Christophe Dautieu.
C'est un sacré soulagement pour le territoire. Aujourd'hui, on cherche des fonds à droite et à gauche. Ce poids qui complétait à cette charge, aujourd'hui d'être décalé de 2 ans, il me semble, qui donne plutôt une carotte à réformer au sein du territoire, donne un espoir, voilà, de vraiment de soulagement. Au niveau des mines, On va y
revenir peut-être après, spécifiquement sur le nickel.
D'accord.
Christophe Houtson.
Oui, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est différé. Ces années blanches, elles ne doivent pas nous dispenser de faire les réformes dont on a besoin. C'est pas écrit tel quel dans l'accord, mais en tout cas...
Non, mais c'est sous-jacent, parce qu'on sait qu'il y a un travail permanent.
On l'a tous bien en mémoire. Hein, ça doit, et pour certaines réformes, on doit y aller très rapidement.
Mmh. Lesquelles, par exemple ?
À la retraite, par exemple, du secteur privé.
Mmh. Christophe Dautieux ?
Oui, j'avais perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais effectivement, cette transformation de dette en subvention, c'est bienvenu, mais je lance une idée qu'on porte depuis un petit moment, c'est effectivement, nous aussi, nous les entreprises, il a fallu qu'on s'endette aussi. Depuis 4-5 ans, avec toutes les crises qu'on a pu subir entre le Covid et le 13 mai, aujourd'hui, cette dette qui prend quand même une charge au sein de nos entreprises va être un petit peu notre charge pour pouvoir réinvestir dans des produits, dans des outils de production. Donc de voir également d'aller chercher une idée de transformer cette dette en dette de production pour être aussi un sens d'orientation qui pourrait aider les entreprises à se relancer.
Mmh. Alors, vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre de secteurs urgents à aider. Il y a les retraites. Hein, on sait aujourd'hui que les deux régimes sont en difficulté. Il y a évidemment les comptes sociaux, le RUAM, un certain nombre aujourd'hui de dispositifs publics qui sont en forte difficulté. L'État annonce finalement que l'ensemble des mesures proposées permettent de maintenir en 2026 un niveau de flux financier de l'État vers la Calédonie au moins identique à 2025 s'agissant des montants prévisionnels. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura assez d'argent pour faire en sorte, Jean-Marc Burette, que les différents secteurs qu'on a évoqués, retraite, comptes sociaux, à défaut d'être comblés, vont être au moins stabilisés?
Alors, je voulais juste rebondir ce que disait Christophe. Hein. Effectivement, on est conscient du jeu du travail qui se présente à nous sur les réformes. Mais je dis aussi que c'est en période de crise, il faut bien réfléchir les réformes. C'est-à-dire qu'il faut les ajuster, les équilibrer. On est là aussi pour y veiller. Parce que
mais
on
il
peut
faut
pas...
aussi pardon, avoir du courage. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aller plus loin que ce qu'on a.
Mais on l'aura, et je pense que les partenaires qui sont autour de cette table aujourd'hui l'ont. Et on l'a démontré, on ira dans les réformes, mais les plus justes et les plus équilibrées possibles. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention entre une situation de crise et une situation où on est plutôt sur un équilibre dans 2-3 ans. Quelle réforme va être productive pour le territoire de la Calédonie ? Et on ne pourra pas absorber, quelles que soient les réformes qu'on a, le choc qu'on a eu en 2024. Donc, pour revenir à votre question... 2026 va quand même être une année difficile, malgré l'effort qui est apporté par l'État. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le texte, je le disais en préambule, est très général et que ce sont des fonds qui vont être versés au gouvernement, mais ils ne sont pas fléchés. Par exemple, retraite, nous, c'est une problématique du soin qu'on a mis sur la table depuis longtemps. Hein. La rupture de trésorerie sur les retraites, et cette enveloppe-là sert à peine à couvrir les retraites. Donc, quid du reste. Donc, je pense qu'il n'y aura pas assez ni pour le RUAM, ni pour les risques sociaux que va rencontrer la Nouvelle-Calédonie.
Christophe Coulson.
Oui, je confirme la réponse à la question. Elle est claire, c'est non, ça ne suffira pas. Les aides de l'État ne suffiront pas, puisque, comme je l'ai dit au début de l'émission, concernant le régime des retraites du secteur privé, c'est une aide d'environ 2 milliards. Et il va manquer entre 6 et 7 milliards pour l'année 2026. Et concernant le RUAM, c'est dans un premier temps 6 milliards qui sont consacrés par l'État sur un manque d'environ 12 à 14 milliards. Donc il va falloir que nous et la Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble, réfléchissions à trouver les moyens nécessaires pour combler la différence. Il faut qu'on se mette au boulot sur le sujet.
Bertrand Courte.
Oui, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet accord, c'est une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie. Comme l'ont dit Jean-Marc et Christophe, ça ne règle pas tout. Loin de là, il y a du travail à faire. Mais sans cet accord-là, tout serait beaucoup plus compliqué. Très sincèrement, on le sait, que ce soit le RUAM, les retraites, on est dans une faillite quasi imminente. hein, les retraites, c'est au mois d'avril ou au mois de mai cette année, hein, où il n'y a plus d'argent pour payer, hein, les pensions des retraités. Donc cet accord, c'est une opportunité, mais c'est un point de départ. Ne faisons pas, par contre, l'erreur de le considérer comme un point d'arrivée.
Et au contraire, ça doit tout mettre en route. Alors le budget de la Calédonie sera probablement adopté au début du mois de février. C'est en tout cas le calendrier qui est annoncé. Les réformes qui doivent être mises en œuvre doivent arriver très très rapidement derrière. Il ne faut pas perdre de temps, Jean-Marc Burette. Il y a vraiment, on ne va pas dire une course contre la montre, mais un calendrier en tout cas très contraint.
Ça fait un petit moment qu'on a entamé cette course contre la montre. Nous, on est très dynamique, hein, les partenaires sociaux, sur les sujets. On aimerait que nos politiques aient la même dynamique et qu'il y ait un certain nombre de textes qui soient justement adoptés et votés au Congrès pour pouvoir donner de la visibilité aux Calédoniens au même titre que l'État l'a fait au travers cet accord.
Mais une fois que cet accord est signé, peut-être que ça va permettre justement à tout le monde d'accélérer. Il y a un certain nombre d'incertitudes quand même qui sont levées, politiques et économiques, Bertrand Courte.
Alors il y a une chose importante peut-être qui peut jouer pour qu'on puisse accélérer, hein, la mise en place des réformes, c'est le décalage des élections provinciales. Hein, parce que jusqu'à présent, c'était fixé à juin maximum,
au plus tard. Et là, c'est repensé au plus tard à fin décembre.
Et on sait
décembre.
Ce qui se passe dans les 3-4 mois qui précèdent une élection provinciale. Rien. Là, on vient de décaler les élections provinciales à fin décembre au plus tard. On peut espérer que du coup, on ait une année 2026 qui soit placée sous le sceau du travail, de l'efficacité, et qu'on puisse enfin mettre en place ces réformes.
Avec évidemment aussi le rôle du Parlement national qui sera très important dans les mois qui viennent. Alors on va parler du secteur du nickel. Vous l'avez évoqué, Christophe Dautieux, parce que l'aide dont on a parlé est faite hors nickel, mais il y a un chapitre spécifique quand même sur le nickel avec deux points principaux, on va dire la structuration, hein, d'une filière d'extraction au niveau européen, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une vision qui permette au nickel calédonien de profiter à l'Europe, et puis aussi une aide à certain nombre d'acteurs calédoniens qui sont en difficulté. On pense à PRNC, on pense aussi à la NMC qui n'a pas été oubliée dans cet accord. C'était important, Christophe Dautieux.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une annonce de 24 milliards pour Prony et 28 milliards pour la SN. La question qu'il faut qu'on voie, c'est ces 28 milliards pour la SN, dans quel sens ils vont être fléchés? Est-ce que c'est sur la partie usine ou sur la partie mine? Attentif dans l'idée qu'on en a aujourd'hui de réfléchir sur l'avenir de ces trois usines-là. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle, en complément en plus des 262 milliards. Mais soyez attentifs dans ce que va être utilisé ces 28 milliards pour que ça aille sur... que ce ne soit pas du pansement. Cet accord permet d'éviter... potentiellement, en tout cas, c'est l'intérêt qu'on comporte tous, d'éviter de faire encore des réformes de pansement, qu'on réfléchisse sur des réformes qui, sur 10, 15, voire 30 ans, pour qu'on ne revienne pas encore dans 5 ou 8 ans à réformer pour retomber dans le dévers. Mmh. Cet argent, ça ne tombe pas du ciel. On a encore la chance aujourd'hui d'avoir cet État qui vient nous aider sur ces 5 ans. Profitons-en pour réfléchir à un mode équilibré sur du plus long terme que ce qu'on fait jusqu'à maintenant depuis quelques années, à réformer tous les 3 ans parce qu'on ne fait que du pansement un petit peu tous les jours.
Jean-Marc Burette.
Oui, effectivement, c'est le positionnement de l'État. Mais mon regret dans cet accord, c'est qu'on ne parle pas de l'usine KNS. Voilà, elle a été un petit peu écartée. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Il aurait pu quand même avoir une pensée pour savoir comment se positionner sur cette usine. C'est extrêmement important pour le développement du Nord également. Ce que je dis aussi, c'est que l'État a donné une position, mais comme pour le reste, le nickel est loin de faire consensus en Nouvelle-Calédonie. Et les solutions sont en Nouvelle-Calédonie. Nous, on interroge les politiques. On sait que l'échéance est courte. La faillite est annoncée et proche, c'est-à-dire qu'on a pratiquement un mois ou deux mois devant nous. Nos politiciens ne trouvent pas un consensus sur ce sujet-là, la Calédonie ne pourra pas absorber un deuxième choc économique. Pour être très clair, on n'a pas le luxe de voir une usine de nouveau fermée faute de repreneur ou faute d'investissement. Donc je crois que là, on a tiré sur la corde tout ce qu'on a pu. Quand je dis 2 mois, normalement, c'est jusqu'au mois de mars qu'on a une visibilité. L'État s'est positionné, mais en local, c'est là où que le travail reste à faire.
Sachant que le travail que demande l'État aussi, comme il l'a demandé finalement aux autorités politiques, c'est aux industriels ou aux opérateurs miniers, de s'engager aussi vers des chemins de rentabilité.
C'est ça.
Christophe Coulson.
Oui. Moi, je vais être un peu plus nuancé parce que je sors à l'instant d'une assemblée générale avec tous mes représentants de la filière nickel. Donc, SLN, Prony, NMC, Montagna, même KNS était là. Et je suis sorti assez positif de cette assemblée générale puisque je pense qu'on n'a pas tous les éléments aujourd'hui de ce qui se passe réellement sur le terrain et des avancées.
Par rapport aux repreneurs potentiels ou ceux qui sont déjà manifestés
par rapport à la situation du nickel globale, qui est décrite, je peux vous dire que sur le terrain, les gens du terrain, les salariés des entreprises s'investissent énormément sur le devenir de leur filière. Et hélas, par exemple, ce matin, il m'a annoncé que les négociations sur Kouawa vont nous mener à la réouverture de la mine de Kiel, dans un premier temps.
Et peut-être sans boule aussi.
Et c'est exact. Et aussi, même sur Thiou, avec des négociations qui se passent entre les populations et la SLN, notamment, et tous les salariés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas dresser une situation noire de la filière, parce qu'il y a énormément d'avancées qui se font grâce aux gens qui se mobilisent sur le terrain, d'où l'importance de prendre en compte le sociétal. C'est le message que j'ai fait passer à la mission interministérielle et notamment à Madame Durieux. Si vous voulez qu'on arrive à s'en sortir sur la filière nickel, il faut aussi travailler avec le sociétal. Et les gens attendent pas forcément d'énormes choses, mais peut-être des petites choses qui vont arriver à faire débloquer ces situations pour avancer sur la filière.
Bertrand Courte, toujours sur le nickel.
Oui, alors très clairement, bon, la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une nouveauté, a besoin d'un secteur nickel fort et rentable.
Même si on dit qu'elle en dépend trop par moment.
C'est vrai, mais pour l'instant, c'est toujours la réalité. Donc, il vaut mieux faire en sorte que ça survive et que ça retrouve les chemins de la rentabilité. Pour compléter ce que disait Jean-Marc, on a adressé nos partenaires sociaux la semaine dernière ou cette semaine, un courrier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et donc à tous les groupes politiques du Congrès sur le dossier nickel, où on appelle, là encore une fois, à la responsabilité et on exhorte nos politiques à trouver un chemin pour aboutir à une stratégie nickel qui permette de continuer à avoir ce secteur-là qui soit fort pour l'économie. Claire Durieux l'avait dit lors de son dernier passage, lors d'une interview télévisée, qui avait un repreneur qui avait fait déposer une offre ferme pour PRNC.
Elle est à l'étude.
Il y avait deux conditions, deux parties de conditions. Une partie dans les mains de l'État. L'État semble vouloir jouer le jeu. C'est le cas de l'accord et de la partie nickel. Et une partie en local qui repose, je pense, essentiellement sur l'export de nickel et autoriser l'export de nickel. C'est là où on appelle les politiques. Attention, on sait que ce sujet-là, l'export de nickel, n'a jamais fait consensus en Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, la situation de Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas celle d'il y a 3, 5 ou 7 ans. Tout a changé. Donc on appelle les politiques à de la responsabilité et à sortir de cet issue-là.
Et on rappelle que le nickel qui peut potentiellement être exporté est un nickel qui n'est pas traité, qui ne peut pas être traité dans les usines calédoniennes. Hein. Donc qui pour l'instant s'accumule sur les verses et ne sert pas à grand-chose. Jean-Marc Burette.
Pour être plus clair dans mes propos, je pense que la voix des salariés, de ceux qui font aussi, qui travaillent dans les usines et sur les mines, c'est cette voix-là qu'il faut porter auprès de nos élus. C'est ça que je dis, en fait, dans mon message. Et que ce ne soient pas les élus qui utilisent la filière nickel pour d'autres leviers. Donc, il y a une grande dynamique, comme l'a dit Christophe, une grande dynamique qui se met en place autour des mines et des usines. Les salariés sont très engagés. Il y a des usines qui ont de la productivité, notamment PRNC et la SLN. La KNS ne peut plus en avoir. Mais ce sont des usines qui tournent. Et si on regarde globalement la solution, c'est des usines qui pourront avoir une valeur ajoutée pour la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras. Et on demande à nos politiques de se mettre en ligne avec les salariés et ce qui représente le monde social pour que les choses se passent bien.
Alors, pour peut-être terminer cette émission, à moins qu'il y ait d'autres sujets sur lesquels vous vouliez intervenir précisément. Oui, c'est le cas de Christophe Coulson, apparemment.
Oui, merci. Juste préciser le courrier auquel fait référence Bertrand. C'est un courrier signé par les organisations patronales, les quatre, et par cinq organisations de syndicats de salariés. Donc c'est un courrier en commun que nous avons adressé à la présidente du Congrès et au président de groupe du Congrès, de manière à pouvoir participer à la fameuse commission concernant le nickel qui existe au sein du Congrès. C'est ça notre demande, en fait.
Précision importante, effectivement. Oui, je le disais, peut-être pour terminer, on a parlé de ces aides que l'État va accorder à la Nouvelle-Calédonie. Hors nickel, c'est des aides qui principalement vont permettre de soutenir les finances publiques et les dépenses publiques. Est-ce que cette injection d'argent dans ce secteur public va permettre aussi au privé d'en bénéficier? Comment voyez les choses, Bertrand Courte? Est-ce que lorsque les finances publiques sont, on ne va pas dire vont bien, mais en tout cas ne menacent pas de s'effondrer, ça peut aussi doper d'une certaine façon le privé?
De toute façon, les deux sont liés. Le privé aujourd'hui, si on prend le secteur du BTP, Christophe pourra le dire, a besoin d'une relance de l'investissement public.
Il faut relancer la commande publique. Oui,
ouais. On a besoin aujourd'hui, le BTP a absolument besoin de retrouver un certain niveau de carnet de commandes pour pouvoir s'en sortir et continuer à exister. Aujourd'hui, ce secteur-là, c'est le secteur le plus sinistré, je pense, de la Nouvelle-Calédonie, avec juste derrière, certainement, le tourisme. Il est indispensable qu'on ait des finances publiques qui soient saines. Donc l'investissement public est indispensable. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut relancer la machine économique sans l'investissement public.
Christophe Dethieu, vous partagez ce point de vue ?
Totalement. Aujourd'hui, c'est vrai que cet accord permet de retrouver une confiance. Cette confiance apportera effectivement de l'investissement du privé. Et cet investissement du privé viendra remonter un peu la pente du pourcentage que représente le privé aujourd'hui en investissement. Aujourd'hui, le public prend la main, mais le public ne prend pas la main pour la totalité. Et on a, j'espère, l'espoir, en tout cas ce que j'en vois, de trouver un peu la lumière au fond du tunnel, à retrouver du privé à vouloir réinvestir dans les prochains mois.
Parce que cet afflux d'argent, Jean-Marc Burette, la question qu'on peut se poser, c'est que vous dites qu'il faut encore affiner les fléchages pour être sûr qu'il profite bien à ce à quoi il doit servir. Mais est-ce qu'il va profiter aussi? On parle beaucoup de ruissellement en ce moment, c'est un mot à la mode. Est-ce qu'il va ruisseler sur l'ensemble du tissu économique calédonien?
Aujourd'hui, quand on injecte de l'argent dans l'économie calédonienne, forcément, il y a des impacts positifs. On ne peut pas le nier, et notamment si on le met dans des investissements structurants, ce qui était plus ou moins prévu dans l'accord. Et c'est là où je dis qu'il faudra bien le flécher pour que ce soit des projets qui soient prêts à sortir, rapides, et qui puissent faire effet immédiatement, ou dans le plus court terme possible. Ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas mépriser le côté social des familles qui se sont retrouvées en extrême difficulté, qui n'arrivent plus à se loger et à se nourrir. Et c'est la fameuse enveloppe qui a été dédiée également sur ce niveau social, c'est comment elle va être utilisée, par quel levier.
Une enveloppe de 10 millions d'euros, c'est-à-dire 120 milliards de francs, sous forme de dotation consacrée aux dépenses sociales de proximité.
C'est ça. Donc normalement, c'est à travers les collectivités de proximité. C'est ce qu'on avait demandé, nous, en tout cas, les syndicats. J'espère que ça sera fait en ce sens et qu'on est prêt à pouvoir déployer justement un petit peu cette aide aux familles les plus qui ont été le plus impactées par les événements de 2024.
Je me suis trompé avec ma calculette mentale, mais 10 millions, ça doit faire 1,2 milliard francs pacifiques. Je vois que Christophe Coulson me faisait les gros yeux. Et Christophe Coulson, vous pensez que cet argent va aussi, même s'il arrive évidemment via les finances publiques, va profiter à l'ensemble du tissu économique calédonien à terme?
Bien évidemment, puisque assainir la dépense publique fléchée, ces subventions ou prêts vont aider la Nouvelle-Calédonie. Un exemple simple, par exemple, toujours en revenant au RUAM ou à la retraite, ça permettra peut-être d'éviter des augmentations de cotisations devant être supportées par les entreprises qui n'en peuvent plus aujourd'hui. Donc effectivement, c'est important. Ou alors aider les familles, comme le dit Jean-Marc, d'une manière un peu plus fléchée, de manière à ne pas les laisser au bord de la route et sombrer dans la misère encore plus qu'elles ne sont aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau des Jeudis de l'économie pour nous parler de ce volet économique et social de l'accord Élysée-Oudinot. Voilà, il ne faut pas mélanger les mots. Je rappelle, puisque j'en profite, puisque c'est l'objet de notre question du jour, vous pouvez aussi vous prononcer, vous. La question du jour est la suivante. La partie économique de l'accord Élysée-Oudinot vous donne-t-elle confiance dans une possible relance? Si c'est le cas, vous tapez 1. Si ce n'est pas le cas, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. Vous aussi qui avez participé à cette émission, vous pouvez évidemment participer à Opinion. Merci beaucoup de votre présence dans les studios de Radio Rythme Bleu et c'est une émission qui sera disponible en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.
Merci. C'était les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.